France Musique. Musicopolis. Gershwin, 1935. New York.
Good evening. This is George Gershwin speaking.
En 1934, le journal Comedia a envoyé un reporter pour un week-end à New York. Après s'être émerveillé sur la beauté de la ligne de gratte-ciel, sur la vitesse du métro, le nombre de magasins, sur les réclames lumineuses et tous les théâtres de Broadway, notre témoin se rend à Harlem, ou la ville noire, qui est la nuit l'un des quartiers les plus pittoresques de New York. Savez-vous, nous demande le reporter, que la population de Harlem, exclusivement noire, dépasse 300 000 habitants. Deux établissements de nuit attirent la foule. Le premier, le Savoy, est un dancing où certaines femmes blanches dansent avec des nègres plus ou moins inquiétants. Le second établissement, poursuit l'article de Comedia, c'est le fameux Cotton Club, sorte de music hall nègre d'une rare qualité. Je n'ai jamais vu de numéro aussi réussi que ceux du Cotton Club. L'orchestre, admirablement cadencé et rythmé, fait danser avec une sorte de frénésie de splendides négresses blanches, si l'on peut dire. Vraiment, ces nègres aux chants nostalgiques, merveilleusement mimés, sont de bien grands artistes.
Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. And if you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music, the rip-roaring harmony hound, none other than Duke Ellington. Take your bow, Dukey. First number tonight's gonna play a brand new little tune entitled The Cotton Club Stomp. Let her go.
C'est une idée bien imparfaite de la vie nocturne à New York que j'ai essayé de vous donner, conclut le reporter de Comedia. Mais cette vie nocturne qui se prolonge, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à 4 et 5 heures du matin, prouve la vitalité de New York et démontre mieux que de longues phrases la reprise des affaires. Cette vie de nuit n'existe vraiment, comme me le faisait remarquer Son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, que depuis quelques mois, depuis la fin de la prohibition. L'abolition de la prohibition a été pour le commerce américain un stimulant insoupçonné.
You got to sing. Swing, you truck on down to the Cotton Club. If you can't get a taxi, grab a sub. Swinging in Harlem was a grease. Well, they swung out a million ways. Move downtown nowadays. Swinging at the Cotton Club. Boy, they drop in off that great white way. They keep on swinging till the break of day. Everybody's always gay. Swinging at the Cotton Club. Now, if you've had the blues all day, you watch those dancing feet. They're sure to drive your blues away. Telling you, buddy, that can't be beat. If you don't know what to do, turn west off 7th Avenue.
Le Savoy et le Cotton Club sont donc les deux établissements de Harlem où l'on danse sur la musique des orchestres les plus réputés de New York, comme celui de Chick Webb au Savoy et celui de Duke Ellington au Cotton Club. Les années 20 et 30 sont celles du mouvement appelé Harlem Renaissance, un mouvement culturel, social et artistique au moment où beaucoup d'Afro-Américains ont émigré depuis les États du Sud pour venir dans le Nord, notamment à New York. Cette renaissance a vu une floraison artistique aussi bien en littérature, avec des poètes comme Langston Hughes, Claude McKay, James Johnson, qu'en musique, avec des pianistes ou chefs d'orchestre Duke Ellington, U.B. Blake, Jelly Roll Morton ou Fats Waller.
I'm walking on air. For I've left all my blue days behind. don't care. And there's love, really love on my mind. I'm the world's most happy creature. Tell me, what can worry be? I'm crazy about my baby. Baby is crazy about me. Mr. Cupid was the teacher. And the reason.
Les pianistes de Harlem, dans les années 20 et 30, inventent un nouveau style pianistique, qu'on appelle justement le Harlem Stride. La main gauche marque les quatre pulsations de la mesure, la basse sur le premier et le troisième temps, et un accord sur le deuxième et le quatrième, produisant un effet oompa oompa, comme Fats Waller. Les artistes du mouvement Harlem Renaissance, dans les années 20 et 30, participent à la création d'une nouvelle identité noire et redéfinissent la perception qu'a la société des Africains américains, qui, par la grande vague d'immigration vers le Nord, ne sont plus perçus comme des ruraux peu éduqués, mais comme des urbains sophistiqués. Néanmoins, il faut rappeler qu'on est encore dans une époque de ségrégation, qui se retrouve jusque dans la musique. Si au Savoy, les Noirs peuvent venir danser, au Cotton Club, en revanche, ils ne peuvent entrer qu'en tant que musiciens et jouer pour le public blanc.
That's breakfast in Harlem. Most of the smart set, when they get their heart set on going low down, they like to disguise it, they don't advertise it at all. And late in the night when the moon's fading light is about to go down, they steal away where the brown shadows play on the wall. Society sits and dies at the Ritz when they get to feeling right. Always have their breakfast in Harlem. In all the hotels, the swellest of swells are saving their appetite for a little breakfast in Harlem. When good church neighbors to their labors awaken, then high societies mix in rhythm with bacon. The coffee is hot, so is the spot. Nobody says goodnight till they have their breakfast in Harlem.
Dans les années 30, Harlem est donc le lieu du renouveau de la culture afro-américaine. Et c'est aussi un point de rendez-vous pour ceux qui veulent faire la fête ou tout simplement écouter de la bonne musique. George Gershwin, le célibataire le plus convoité de New York, est un habitué des clubs de ce quartier. Il est lui-même très intéressé par la Harlem Renaissance et il fréquente ses représentants les plus connus, dont bien sûr les musiciens. Il est très ami avec beaucoup d'entre eux, Duke Ellington ou Fats Waller, avec qui il passe des heures au piano à jouer et à s'écouter. Au-delà de la musique, Gershwin se sent concerné par le sort des Noirs. En 1926, il a été très séduit par la lecture de Porgy, le court roman de Du Bois Hayward, un écrivain blanc de Caroline du Sud.
Oh,
Dès la lecture du livre, Gershwin est persuadé qu'il tient avec Porgy un sujet d'opéra, la vie des Noirs dans un quartier déshérité de Caroline du Sud. Il contacte tout de suite Dubose Heyward. Mais pour le moment, l'écrivain et sa femme Dorothy sont en train d'adapter le roman pour en faire une pièce de théâtre. Gershwin revient à la charge en 1932, et cette fois-ci, la collaboration entre les deux auteurs se met en place. Heyward va venir plusieurs fois à New York, et Gershwin va faire plusieurs séjours à Charleston, pour s'imprégner de la vie, du climat, de l'atmosphère, des Negro Spirituals et du langage particulier des Noirs de cette région, qu'on appelle le Gueula. Dubose Heyward tient absolument à ce que Gershwin approfondisse la musique des Noirs de Caroline du Sud. Le musicien passe donc une grande partie de l'été 1934 à Charleston, sur une petite île face à l'océan. Il assiste à plusieurs soirées musicales, auxquelles même il participe, chantant et battant les rythmes d'une manière qui impressionne les musiciens du cru. L'un d'eux est admiratif et lui dit « J'ai dépassé 70 ans et je n'ai jamais vu un pauvre petit blanc capable d'en faire autant. » Tu pourrais être mon propre fils. » Au cours de son séjour dans le Sud, Gershwin a l'occasion d'écouter une prière chantée par les fidèles dans une église. Il est fasciné par la polyphonie produite par toutes les voix qui entrent en canon sur des motifs rythmiques différents. À l'automne, Gershwin écrit à Dubose Heyward qu'il a inclus dans son opéra une prière au moment de l'orage, chantée par 6 personnages différents. C'est un peu ce que nous avions entendu lorsque nous écoutions dans la rue les chants qui venaient de l'église.
Oh.
Gershwin passe une grande partie de l'année 1934 à composer Porgy and Bess. Dubois Hayward lui fournit peu à peu le texte qu'il met aussitôt en musique. Ira Gershwin, le frère aîné de George, collabore lui aussi au livret, pour certaines chansons et pour les moments plus humoristiques ou sentimentaux. Et là, c'est Ira qui part de la musique que lui propose George et qui trouve alors les mots.
It ain't necessarily so.
It ain't necessarily so.
It thinks that you're liable to read in the Bible. It ain't necessarily so. Little David was small, but oh my.
Little David was small, but oh my.
What did he do? He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small, but oh my. Wadu,
wadu,
zimbamboodle,
zimbamboodle,
hoodlady wada,
scatty
wad.
Une collaboratrice dont le nom est souvent passé sous silence est Dorothy Hayward, l'épouse de l'écrivain. C'est elle qui avait adapté le roman en pièce de théâtre, et il est certain que son rôle a été grand aussi dans l'élaboration du livret de l'opéra, même si son nom n'apparaît pas au générique. Dès le mois de septembre 1934, Gershwin se met à l'orchestration. Il avance lentement, soulignant qu'il y a des millions de notes à écrire. Pour lui, cet opéra est ce qu'il a réalisé de plus difficile et de plus motivant. Il en joue des extraits à nombre de ses amis et il révise continuellement ce qu'il a déjà écrit. Les grands modèles auxquels il se réfère sont Carmen, les maîtres chanteurs et Boris Godounov. Il utilise des leitmotifs et il met l'accent sur le rôle du chœur. Il se sert aussi de toute une batterie de techniques d'écriture comme la fugue, la passacaille, le canon, et il innove dans la ligne vocale avec toutes sortes de techniques de chant. Son orchestration est très soignée et certains de ses amis y ont vu l'influence de son dernier professeur, Joseph Schillinger, avec qui il étudie encore à cette époque. Une fois Porgy and Bess terminé et orchestré, il reste encore à trouver les voix pour l'interpréter. Tous les personnages sont noirs et Gershwin tient évidemment à ce que la distribution soit entièrement noire. Ce qui d'ailleurs pose un problème de lieu. Pas question en 1935 que des chanteurs noirs montent sur la scène du Metropolitan Opera par exemple. Mais déjà à cette époque, beaucoup d'Afro-Américains reçoivent une formation classique de haute qualité et Gershwin est certain de trouver ceux qui pourront prêter leur voix à ces personnages. Pour chanter le rôle de Porgy, le compositeur aurait voulu avoir Paul Robeson. Mais celui-ci est pris. Et Gershwin fait venir de Washington le jeune Todd Duncan, dont on lui a dit grand bien. Duncan raconte que lorsque le compositeur s'est mis au piano pour lui jouer l'opéra, il a d'abord trouvé la musique bizarre et inchantable. Puis, peu à peu, il s'est laissé prendre pour finir en larmes.
Bless you is my woman now. Must laugh and sing and dance for two instead of one. For no wrinkle on your brow, nor because the sorrow of the past is all done done.
Pour le rôle de Bess, c'est la jeune Anne Brown qui a été choisie. Elle raconte que lorsqu'elle a appris que Gershwin allait monter un opéra avec une distribution de chanteurs noirs, elle a écrit espérant un petit rôle. Elle est encore élève à la Juilliard School et lorsqu'elle est convoquée, elle lui chante des airs de Massenet, des Lieder de Brahms et de Schubert. Elle prend la mouche lorsqu'il lui demande de chanter un negro spiritual, se disant qu'une fois de plus, les Noirs sont réduits à chanter la musique dite « noire ». Gershwin lui explique gentiment qu'il a besoin de savoir comment elle chante cette musique, puisqu'il a écrit une partie de l'opéra dans cette perspective. C'est seulement au bout de plusieurs semaines qu'il lui annoncera qu'elle chante le rôle principal. Au soir du 10 octobre 1935, après que l'opéra ait réussi un galop d'essai à Boston quelques jours plus tôt, c'est donc le succès pour Gershwin et son Porgy and Bess. Au fil du temps, la perception de l'opéra s'est affinée. La représentation des Afro-Américains est remise à présent dans le contexte de l'époque, de même que l'utilisation du jazz et de la musique populaire. Et quoi qu'il en soit, l'œuvre est entrée dans le long fil de l'histoire de l'opéra comme un jalon important du XXe siècle. La musique doit exprimer les pensées et les aspirations des gens, déclare Gershwin, ainsi que leur époque. Je suis un homme sans tradition, ma famille est américaine, mon époque, c'est aujourd'hui. J'ai la modeste prétention de contribuer à l'élaboration du grand roman musical américain. C'est tout. Le final de Porgy and Bess de George Gershwin, ici Todd Duncan dans le rôle de Porgy, le Eva Jessie Choir et le Decca Symphony Orchestra dirigé par Alexander Smolens, enregistré en 1940. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Alain Joubert pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.